code éthique par le permis Dominique Philippe, le 7 mars 2002 à Saint-Gédard.
Nous avions traité la fois dernière, au moins commencé, pour essayer de préciser si la consécration virginale était typiquement chrétienne. C'est toujours le problème qu'on se pose. Jusqu'où peut aller la vertu de religion purement naturelle? Okay. Elle n'est jamais purement naturelle, de fait. Parce que je crois que quelqu'un qui vit vraiment de ses vertus de religion est aidé de Dieu et que Dieu l'éclairera au terme de sa vie, peut-être, ou durant sa vie, parce que ça le met très proche de Dieu dans l'adoration et dans l'abandon. On viendra sur l'abandon. C'est naturel, l'abandon et l'adoration. La vertu de religion a quelque chose de naturel. Ça, c'est très très important de bien le souligner. C'est du reste le geste du Saint-Père. Le geste du Saint-Père serait absolument inadmissible et impossible à comprendre si la vertu de religion n'est pas naturelle. Quand il rassemble tous ceux qui croient en Dieu, dans le Créateur, qu'il les rassemble et qu'il prie avec eux. Vous comprenez, si la vertu de religion n'existait pas, il ne pourrait pas faire ça. C'est parce que la vertu de religion est une vertu naturelle que l'homme doit acquérir. En France, il y a un athéisme tel qu'il veut supprimer la vertu de religion comme étant naturelle. On veut construire l'Europe sans parler de l'attitude religieuse. Il faut qu'au plan naturel, tout simplement, point de vue vérité, l'homme dit ouvertement, le citoyen européen dit ouvertement que c'est injuste. L'État n'a pas le droit de faire ça. Et tant qu'on peut le dire, on peut dire que c'est injuste. C'est très important qu'il y ait des hommes qui aient le courage de pouvoir le dire en face. C'est contraire à la dignité de l'homme. On diminue l'homme en prétendant que Dieu n'existe pas et qu'il n'y a pas de vertu de religion. Naturellement, l'homme peut découvrir Dieu et naturellement, l'homme doit l'adorer. Ça, je crois que il y a des martyrs qui ont été martyrs parce qu'ils ont affirmé que Jésus existait. Nous devons, nous, parce que l'athéisme contemporain est plus terrible que le paganisme, parce que ce sont des hommes qui renient le Christ. Je ne parle pas comment ils font, objectivement, leur culpabilité, ça ne me regarde pas. Ils peuvent être très, très pardonnables, et le Christ leur pardonnera, comme il a pardonné à Judas. Mais il faut que, objectivement, nous voyons, et ça, il faut que vous le voyez, si vous avez des objections, vous devez les écrire. C'est votre devoir de voir clair là-dessus. Parce que c'est très grave. Et au fond, c'est actuel. Nous vivons ça. Donc nous devons voir. Vous voyez, le président de la République des États-Unis reconnaît l'existence de Dieu. Il est protestant. Il reconnaît. Qu'il ne soit pas catholique, hein. On prie pour qu'il le soit. Mais au moins, il affirme une chose naturelle. Naturellement, on doit reconnaître l'existence de Dieu. Et naturellement, on doit reconnaître le point de vue religieux. Admettre l'adoration et reconnaître la grandeur de l'adoration. C'est nécessaire. C'est l'attitude naturelle. Alors, la question qui se pose, c'est de savoir si l'adoration naturelle, peut commander à quelqu'un de ne pas se marier, d'offrir sa virginité à Dieu, en signe, en prolongement de son adoration. Pour montrer que la vie appartient à Dieu, que Dieu a remis à l'homme le pouvoir d'engendrer et d'offrir librement ce pouvoir d'engendrer et cette maternité pour glorifier Dieu, pour montrer la transcendance de Dieu vis-à-vis du vivant. Le sommet du point de vue vital humain, c'est la procréation. C'est d'être avec Dieu, de concourir à la procréation. Donc, et c'est vrai, c'est humainement, c'est une des choses les plus grandes. Contemplation naturelle est plus grande. Il ne faut pas l'oublier. Puisque la contemplation naturelle de Dieu est ce qu'il y a de plus grand avec l'adoration. Et elle est indispensablement liée à l'adoration. S'il n'y a pas l'adoration, on ne peut pas contempler naturellement Dieu. Alors, je me pose la question, est-ce qu'on peut offrir sa vie en holocauste d'amour à l'égard de la transcendance de Dieu ? Pour reconnaître que Dieu est le maître de la vie et de la mort. Est-ce que le vœu du célibat parfait, le vœu de virginité, peut se faire dans une prudence purement naturelle, religieuse. Bon, la question n'est pas oiseuse, elle existe. Et donc, il faut qu'on ait le cœur net là-dessus et qu'on voit exactement la chose. Pour savoir si on doit défendre ou pas défendre, si dans quelle mesure on peut être de cœur partiellement avec tous ceux qui adorent Dieu et qui se consacrent entièrement à Dieu. Comme aujourd'hui, il y a un va-et-vient de l'humanité qui se fait, on peut être voisin de ces personnes. Et l'attitude qu'on doit avoir vis-à-vis d'elles est toute différente si on reconnaît que c'est légitime ou qu'on reconnaît que c'est pas légitime. Si c'est légitime, on coopère on peut coopérer, même si cet acte n'est pas total, puisqu'on ne reconnaît pas le mystère de la très sainte Trinité, le mystère du Christ, mais on reconnaît l'existence d'un Dieu. Je crois qu'il faut dire que la transcendance de Dieu, maître de la vie et de la mort, suffit et peut être le motif suffisant de s'offrir à Dieu, d'offrir sa vie à Dieu, avec toujours ce désir de ne faire que la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tout en raison d'un orgueil pour se mettre au devant des autres. Parce que cela, par le fait même, conduirait à ne plus adorer. Grâce à l'adoration, je demeure dans l'humilité. Il ne faut pas l'oublier, ça. C'est grâce à l'adoration que je demeure dans l'humilité. Quelle est la première activité pour acquérir l'humilité? C'est justement l'adoration. C'est plus facile d'être humble en face de Dieu que d'être humble en face de mon frère. Ça, c'est bien évident. Et donc, il faut commencer par ce qui est normalement plus facile. Adorer Dieu me rend humble en face de Dieu, petit en face de Dieu. Et cette petitesse en face de Dieu peut faire que je considère que ma vie, elle dépend totalement de Dieu, et donc je l'offre à Dieu. J'offre à Dieu ce que je suis, totalement, jusqu'au bout. Alors, cette virginité est pour exprimer la transcendance de Dieu. Dieu, maître de la vie. Dieu, maître de l'âme. Si Dieu n'était pas le créateur de mon âme, je ne pourrais pas faire ça. Étant donné la grandeur de la procréation. Mais parce que Dieu est le créateur de l'âme, il est le maître de la procréation. Et je puis très bien dans un monde qui ne reconnaît plus cette transcendance de Dieu vis-à-vis de la création, vis-à-vis de la vie, le montrer de cette manière-là, pour rétablir une vérité. Il ne faut pas oublier ça, que si nous faisons, nous, le vœu de virginité, si nous offrons à Dieu la maternité, comme la paternité, c'est pour que dans l'univers, en face des hommes, nous soyons témoins de la transcendance de Dieu, maître de la vie. Dans un monde qui ne croit plus en Dieu, maître de la vie et de la mort, c'est un témoignage que nous lui rendons, et donc c'est dans le prolongement de notre adoration. Au fond, c'est l'adoration qui fait le fondement de cela, et qui nous permet de nous justifier en face des autres, parce que, au fond, d'une certaine manière, on a un devoir vis-à-vis de notre pays. On a un devoir vis-à-vis de l'humanité. Vis-à-vis de l'humanité, on a un devoir de fonder un foyer. de permettre que notre pays demeure devant la baisse de nationalité et qu'il demeure selon ses mœurs propres. Mais il y a un devoir plus grand, c'est celui de reconnaître que Dieu est transcendant. C'est un devoir qui passe avant. Oui, c'est une querelle de devoirs, hein, au fond. Mais il y a la justice et l'adoration, la vertu de religion est une justice à l'égard de Dieu. Donc, comme justice à l'égard de Dieu, elle passe avant la justice à l'égard des hommes. En tant que citoyen, je suis responsable de mon pays. Mais en tant que comme, hein, vous voyez, les deux aspects, il y a le bien commun du pays et il y a plus que le bien commun à l'égard de Dieu. Ce n'est plus le bien commun à l'égard de Dieu. C'est au-delà du bien commun, ce bien transcendant de reconnaître l'existence de Dieu et sa souveraine autorité au point de vue de la vie et de la mort. Il faut que ce soit très net dans notre esprit. Et si vous avez des objections, essayez de les écrire, parce que ça peut provenir de votre éducation. Alors ça, il faut corriger. On cherche la vérité. Ça peut provenir parce que le démon a sur notre imagination un certain pouvoir et il met en nous constamment cette espèce d'arrêt à l'égard des preuves de l'existence de Dieu. Il nous arrête. Et c'est important pour nous de creuser, c'est pour ça qu'on fait de la philosophie, c'est pour être dans la vérité. Alors la vérité, elle est métaphysique, elle est éthique. Vérité pratique, éthique. La vérité pratique pour nous est, se fonde sur l'adoration. Pour être dans la vérité pratique, il faut adorer. Si on n'adore plus, c'est très dangereux. L'adoration est gardienne de notre vérité métaphysique, de notre vérité philosophique. Dans un monde où ça ne se voit plus du tout, hélas, il faut que nous la cherchions avec encore plus d'avidité. Donc, la consécration virginale peut se justifier uniquement par notre intelligence humaine, par la découverte de l'existence de Dieu, comme créateur, donc comme maître de la vie. Si nous n'arrivons pas à découvrir l'existence de Dieu, il est bien évident que notre devoir à l'égard de la patrie, à l'égard de son pays, est un devoir qui dépasse les devoirs individuels. Ça se voit au moment d'une mobilisation en cas de guerre. Doit sauver son pays contre l'invasion d'un autre pays qui risque de supprimer le caractère propre de son pays. Mais au niveau de son pays, c'est une justice. On n'adore pas son pays. Au niveau de justice, c'est une justice. La vertu de religion est une partie de la justice, oui. est une partie de la justice, mais une partie éminente. C'est l'aspect de la justice le plus grand. Regardez les droits de l'autre. Et de l'autre, c'est les droits de notre Créateur. Ce sont donc des droits souverains qui nous prend jusque dans notre être. Alors que les droits justice à l'égard de son pays ne nous prend pas dans notre existence, dans notre âme. On doit à son pays, on doit une certaine justice. Donc, au point de vue religieux, comprenons que la vertu de religion a quelque chose de très particulier dans son extension. Parce que la vertu de religion permet de mobiliser une communauté pour proclamer extérieurement l'existence de Dieu et la grandeur de Dieu. Donc, l'aspect liturgique est naturel, parce que nous avons un corps et une âme. L'âme fonde le point de vue religieux dans ce qu'il a de plus pointu, et le corps permet à cette vertu de religion d'envelopper notre corps de telle manière que nous pouvons l'offrir à Dieu naturellement, offrir à Dieu transcendant, créateur. Et sans aller jusque-là, nous avons un certain devoir religieux au niveau communauté humaine, donc au niveau pays, au niveau famille, au niveau communautaire. La vertu de religion va s'étendre sur le point de vue communautaire. L'homme, par son corps, appartient à une famille. Par son corps, appartient à la communauté. Il est naturel qu'un pays se développe, une communauté humaine se développe dans un pays. Alors, il y aura la vertu de religion qui d'abord est personnelle et individuelle. Elle est les deux. Je suis partie d'un pays et mon corps relève de mon aidé et saisi par mon âme. Et comme mon âme est créée par Dieu, mon corps dépend de Dieu. Et pour montrer cette dépendance à l'égard de Dieu, il y a normalement des actes communautaires visibles qui sont notre liturgie religieuse à l'égard de Dieu. C'est pour ça que la liturgie naturelle varie suivant les civilisations et les degrés de civilisation. Au sommet de ces civilisations, on aura la vie chrétienne. Et on aura la vertu de religion assumée par le point de vue de la foi, de l'espérance et de la charité. Mais il faut d'abord voir, et il ne faut pas l'oublier, que la liturgie est d'abord naturelle. Et comme il y a le vœu de virginité, la donation de tout de même à Dieu, qui permet le point de vue de la solitude, on peut être un solitaire pour Dieu. Ça va avec la vertu de religion. Et la vertu de religion peut commander une solitude complète. Mais la vertu de religion peut aussi s'épanouir au sein de la communauté. Et dès que la vertu de religion s'épanouit au sein d'une communauté, nous avons une prière liturgique. C'est la définition même de la prière liturgique. C'est la vertu de religion qui cherche les gestes et les paroles qui traduisent notre dépendance à l'égard de Dieu, notre remise de tout nous-mêmes à l'égard de Dieu. Ceci, c'est aussi très important, parce que la liturgie chrétienne ne supprime pas la liturgie naturelle, mais elle lui donne une dignité toute nouvelle. Il faut que dans la liturgie, nous puissions distinguer toujours ce qui est liturgie naturelle, ce qui est liturgie chrétienne. La philosophie doit nous permettre de faire cette distinction-là. Parce qu'il y a une liturgie naturelle. La liturgie naturelle consistera à offrir à Dieu des sacrifices. Puisque Dieu est l'auteur de la vie, on prendra des animaux, on prendra des réalités physiques pour les offrir à Dieu. Et c'est là où on peut condamner le sacrifice des enfants, des petits-enfants qui n'en peuvent rien, mais qui sont des petits vivants, les offrir à Dieu. Parce que c'est au fond ne pas reconnaître la dépendance de chaque homme directement vis-à-vis de Dieu, par la vertu de religion et par l'adoration. L'enfant engendré par l'homme dépend donc de l'homme, mais il dépend avant tout par son âme de Dieu. Et les parents, non, sont dépositaires de ce don, mais les parents ne sont pas maîtres de l'âme. C'est en ce sens-là que la personne humaine se développant choisira l'orientation de sa vie. Ce ne sont pas les parents qui orientent la vie de l'enfant. Ça aussi, c'est très important de se rappeler ça aujourd'hui. Parce que dans la mesure où on ne voit plus l'âme, on donnera à la famille un pouvoir, une autorité souveraine. Les parents dirigeront eux-mêmes l'orientation de l'enfant. Et quand c'est les parents, très vite, ce sera l'État. Et on aura un État totalitaire qui fera la sélection selon son droit. Comme les parents n'ont pas droit total, exclusif sur les enfants, puisque l'âme des enfants est créée par Dieu, de même l'État, par le fait même, et encore plus que la famille. quelque chose qui... qu'il faut respecter et qu'il faut comprendre le pourquoi. Pourquoi les parents n'ont pas un droit absolu sur l'enfant. L'enfant est confié aux parents pour que l'enfant puisse devenir une personne et choisir librement l'orientation de sa vie. Mais les parents peuvent influencer, évidemment, conseiller, mais pas plus. Et ceci, c'est un droit naturel. L'orientation de sa vie, un droit naturel qui relève de l'âme. Et la vertu de religion me donne ce droit dans la communauté humaine. Et je suis farouchement défenseur de ce droit, en tant que reconnaissant que l'âme est créée par Dieu. Si l'âme n'était pas créée par Dieu, les parents auraient le droit d'orienter la vocation de leurs enfants, de l'orienter, non seulement de l'orienter, mais de l'exiger. Mon petit, tu te marieras avec telle personne. Ce qui a existé, tu restes. Alors, de fait, l'Église est là pour défendre cette liberté, parce qu'elle est naturelle. Elle n'est pas surnaturelle, elle est naturelle. L'âme est créée naturellement par Dieu. Et ça va jusque-là. Parce qu'il y a une tendance, quelquefois, à défendre la famille et aller, alors, jusqu'à ce point de vue-là. Et vous comprenez que l'Église maintient le droit souverain de la personne. Mais à partir d'un certain âge. Et on doit respecter cet âge-là. L'Église doit le respecter. Parce que c'est naturel à l'homme d'orienter sa vie dans le sens où il l'aime. Vous voyez, les ramifications de la vertu de religion sont extrêmement profonds et vont loin. Puisque c'est en vertu de la vertu de religion que nous reconnaissons ce droit. Parce que mon âme a été créée par Dieu. Si mon âme n'a pas été créée par Dieu, alors je donne à la famille ce droit. Et nous pouvons à ce moment-là, au nom de l'âme créée par Dieu, revendiquer naturellement le droit à chaque personne humaine d'orienter sa vie comme elle le veut. Avec ce point de vue que quand l'enfant est trop jeune et n'a pas le pouvoir de choisir, la famille est là pour parler. Si l'enfant ne se développe pas et demeure sous tutelle, alors c'est la famille qui a le droit. Parce que la personne humaine ne s'est pas développée suffisamment. Donc comprenons là le fondement philosophique, naturel, qu'on doit respecter au point de vue chrétien. Et l'Église maintient ça. Vous voyez ? C'était la chose assez délicate des petits séminaires où l'on raflait les enfants jeunes, très jeunes, qu'on les mettait dans une formation en vue du sacerdoce. Donc, on réglait la question pour eux. Alors, on arrivait à dire qu'on le faisait, c'était la meilleure, c'était pour eux la plus belle des vocations. Alors, on avait le droit, parce que c'était la plus belle des vocations, de faire ça. C'est pas tout à fait juste, vous voyez. Parce que la plus belle des vocations, vous l'avez choisie, mais votre voisin ne l'a pas choisie nécessairement. Alors, avez-vous le droit d'imposer à quelqu'un quelque chose parce que c'est supérieur à ce qu'ils auraient choisi? Touche le problème des limites de l'autorité que peut avoir un autre sur un jeune, l'autorité que peut avoir l'État sur un jeune, l'autorité qu'un prêtre peut avoir sur un jeune. Il y a un droit naturel qu'il faut garder. Le christianisme ne supprime pas ce droit naturel. Au contraire, il le rappelle. Et c'est toujours en vertu que l'âme est créée par Dieu. Alors, dès qu'on supprime ce point de vue de l'âme créée par Dieu et qu'on ne veut pas le regarder, ce qui se passe beaucoup aujourd'hui, il faut bien dire ça, on va être en face de problèmes terribles, puisque on devra à ce moment-là défendre le point de vue d'une liberté personnelle. Parce que quand la famille disparaît, l'État prend la place et revendique ses droits. Alors, on est tout près devant ce phénomène en France et on le voit dans d'autres pays. Et on doit pouvoir, à ce moment-là, rappeler le droit naturel. Et l'emprise de la vertu de religion. La vertu de religion nous donne le pouvoir de choisir l'orientation de notre vie. Parce que nous sommes créés, notre âme est créée par Dieu, donc nous sommes citoyens de Dieu avant de l'être de l'État, et plus profondément. Nous sommes relatifs à Dieu plus profondément que relatifs à nos parents. Nos parents sommes relatifs quant à notre conditionnement et notre atavisme. Vis-à-vis de Dieu, on est relatif fondamentalement par la vertu de religion. Et tout ce qui dépend de cette vertu.